Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er. Et nous allons lire les versets 12 à 15. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Nous avons vu donc dans les 11 premiers versets où que le but de l'apôtre Pierre était, où l'objectif principal, le point principal se trouve résumé dans le verset 10. Il écrit « Afin que nous affermissions notre vocation et notre élection ». Et l'auteur nous a d'abord rappelé que nous avons tout, Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire en Christ, Dieu nous donne tout en Jésus-Christ. Et c'est sur cette base qu'il nous exhorte à veiller sur nous-mêmes, à meubler cette foi que Dieu nous a donnée, et à veiller à la manière dont nous marchons dans cette vie. Et Pierre écrit cette lettre, comme nous l'avons déjà souligné, à des chrétiens qui connaissaient des difficultés. Et ces difficultés survenaient parce qu'ils avaient oublié certaines choses. Et Pierre, donc, va leur rappeler cela. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, Pierre nous explique en fait toute l'importance de garder ces choses dans notre cœur. Et il y a deux grandes parties ce matin. Nous allons diviser cela tout d'abord, considérer des principes généraux que nous pouvons voir ici, et ensuite des points plus particuliers, plus spécifiques. Et donc, tout d'abord, les principes généraux. Le premier principe qui est valable pour les croyants, mais qui est valable aussi sur un plan général, c'est que nous avons par nature tendance à oublier. On oublie des personnes, on oublie des personnes que l'on a rencontrées, on oublie des amis. Parfois, lorsque quelqu'un est décédé, on pense qu'on ne pourra jamais l'oublier. On dit que sa mémoire sera toujours présente avec nous, qu'il n'y aura pas un seul instant où on ne cessera de penser à cette personne. Et puis, bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas le cas. On oublie. Et parfois, on dit que laisse faire le temps. Le temps peut guérir. C'est une manière assez plus joli de dire que, justement, avec le temps, on va oublier. Avec le temps, certaines choses ne seront plus présentes dans nos mémoires. On peut aussi penser à ceux qui prennent des résolutions en début d'année et qui les oublient plus ou moins vite. Et quelque part, cette tendance à oublier démontre l'affreuse réalité du péché. On oublie ceux dont on voudrait se rappeler, et on se rappelle les choses que l'on voudrait oublier. Ça nous rappelle le langage de Romains chapitre 7. On fait les choses que l'on ne voudrait pas faire et ce qu'on voudrait faire, on ne le fait pas. Et c'est un peu la même chose, ce qu'on voudrait oublier, des paroles, des actes, des motivations parfois derrière certaines de nos actions, des choses que l'on a dites dans le passé, que l'on a dites peut-être un peu sans réfléchir, ou inversement, des choses que des personnes nous ont dites ou des choses que des personnes nous ont faites à notre égard. On sait qu'on devrait les oublier, mais on ne le peut pas. Dès qu'on voit la personne, tout on se rappelle de cela. On n'a peut-être pas pensé pendant des années, et puis quelque chose fait que tout revient à la mémoire. Et c'est une manifestation, il me semble, de l'affreuse nature, l'affreuse réalité du péché. C'est cette perversion, c'est ce qui fait que le péché est tellement haïssable. Le péché se tient entre nous et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et nous freine dans notre progression, puisque nous fait rappeler tout ce qu'on voudrait oublier. Cela se voit donc plus particulièrement, cette nature horrible du péché, dans le fait que l'on oublie. C'est de manière générale, on reviendra plus particulièrement sur les aspects plus spécifiques. Un autre principe général, c'est la différence entre être informé de quelque chose, être au courant de quelque chose, et vivre selon cette même chose. Pierre dit ceci, verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Le danger, et même encore une fois, sur un plan général tout d'abord, le danger, c'est d'imaginer ou de penser que parce que l'on est au courant de quelque chose, parce que l'on sait quelque chose, on est informé de cette chose, cela veut nécessairement dire que cette chose est enregistrée dans la mémoire et qu'elle a une influence sur notre vie. Ce n'est pas toujours le cas. On peut se rappeler des jours où nous étions sur les bancs de l'école et l'on entendait le professeur ou l'instituteur nous donner sa leçon. Et il y a peut-être eu des moments où, en entendant nous rapporter certains faits, on se soit dit « Ah ben oui, ça, je le sais, ça, je l'ai déjà entendu, je l'ai lu quelque part. Oui, je me rappelle de ça. » Mais on ne prend pas de notes. Et puis le jour vient de l'examen où il y a une question sur ce sujet, et on se rappelle du cours. On se rappelle d'avoir vu la chose, d'avoir entendu parler de la chose. On se rappelle d'avoir lu des articles à ce sujet. Mais on ne maîtrise pas l'information. On ne l'a pas enregistrée. On ne possède pas cette information. Et on est incapable de répondre à la question. Et c'est un peu ce qui est derrière le langage de Pierre ici. Il dit « Je sais que vous savez ces choses. Vous êtes affermis dans la vérité présente. Mais je sais aussi qu'il est nécessaire de garder ces choses au centre de votre esprit, au centre de votre vie, pour que la vie en soit influencée. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez, mais je prendrai soin de vous les rappeler. » Parce qu'il y a la différence entre savoir et vivre, entre connaître les choses et les appliquer. Troisième principe général, c'est que la mémoire a besoin d'être stimulée. On peut lire cela, par exemple, au verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. On retrouve le même langage au chapitre 3 et au verset 1. Voici bien-aimé, voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à vous éveiller par des avertissements. Et que ce terme peut aussi se traduire dans certaines versions, et plus particulièrement dans certaines versions anglaises, où il parle de faire appel à la mémoire. Non pas que l'apôtre Pierre voudrait que nous vivions sur des souvenirs, simplement en regardant vers l'arrière, en regardant dans le passé, et en souhaitant revivre le passé. Mais plutôt que ce qu'il souhaite, c'est de vivre avec ce que nous avons appris du passé, et à ne pas reproduire les erreurs, d'où la traduction que nous avons devant nous, par des avertissements. Des avertissements, il y a eu des erreurs dans le passé, mais il y a des choses donc à ne pas reproduire. Et il y a par contre des choses qui ont été vraies dans le passé, qui ont été bonnes, et des principes que nous devons reproduire aujourd'hui. Avancer, ce n'est pas vivre dans le passé, mais c'est d'apprendre du passé pour faire le pas suivant. Et la mémoire a besoin d'être stimulée afin justement d'apprendre du passé. Non pas de chercher à revivre le passé, mais au contraire d'apprendre du passé. Et de garder notre mémoire en éveil afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Autre grand principe, c'est de garder cette vérité constamment devant nous. Il ne devrait pas y avoir un seul jour où nous ne prenons pas le temps de nous rappeler certaines choses. Il ne suffit pas de dire un jour que nous avons Christ comme notre Sauveur, mais parce qu'il est notre Sauveur, nous avons besoin de lui à chaque instant, chaque heure. J'ai besoin de toi, comme le dit un cantique, chaque jour, à chaque heure. Nous avons besoin de lui. Là encore, ça rejoint le point suivant, dans le sens que, en se rappelant des fois où nous avons détourné les regards, où nous l'avons oublié, comme Pierre en marchant sur la mer, sur le lac, où nous avons détourné les yeux de lui, nous avons regardé plutôt nos circonstances, nous avons chuté comme Pierre, nous avons sombré dans les eaux du lac. C'est pour cela qu'il est nécessaire de méditer la parole de Dieu. Cela nous ramène au psaume 1, cela nous ramène au passage de Josué, chapitre 1, de garder cette parole dans notre cœur, de méditer, de venir à Christ dans la prière et de nous attendre à lui. Bien entendu, nous savons que, et nous ne devons pas oublier encore une fois, que nous sommes en guerre. Le monde autour de nous est contre nous. Le vieil homme, Romains 7, est contre nous. L'adversaire lui-même cherche à nous faire tomber s'il le pouvait. Et il ne faut pas oublier que là encore, nous ne sommes pas dans un terrain neutre, mais nous sommes dans un terrain qui est dans un milieu qui est opposé à Dieu. Il est nécessaire donc de garder ces choses constamment devant nous, de nous les rappeler constamment. Sinon, elles vont être perdues simplement dans un coin de la mémoire et elles n'auront aucun effet dans la vie quotidienne. Et le dernier principe général, c'est que le but de la prédication et le rôle de l'Église, ce n'est pas de chercher à présenter des nouvelles idées, mais de rappeler l'essentiel, de rappeler des vérités fondamentales et éternelles. Le monde autour de nous, par exemple, affirme beaucoup de choses, mais les affirmations restent plutôt générales, que ce soit au sujet de l'état du monde, au sujet de l'état de ce pays, de l'économie, de la politique, mais tout reste plutôt vague. Le message de l'Église, lui, ne peut pas être général, ne peut pas être vague. L'Église doit proclamer les vérités essentielles, les vérités centrales de l'Évangile, celles que Dieu a révélées en Jésus-Christ. Le monde oublie cela, il préfère rester vague. Et quand il aborde des questions spirituelles, il parle de généralité. Mais tout cela ne mène absolument à rien. Nous ne pouvons pas être vagues. Nous ne pouvons pas parler de généralité. Et des choses à rappeler à ce monde, des choses que ce monde cherche à oublier. Et il nous faut les rappeler. Et Pierre, dans ces quelques versets, va nous donner quelques points bien spécifiques. Et c'est la deuxième partie, donc, que nous voulons voir ce matin, des points spécifiques que Pierre veut souligner. Tout d'abord, il y a la vie en elle-même. L'Évangile parle de la gloire, de la beauté de la vie. Le monde autour de nous a une vue très petite de ce qu'est la vie. Le monde considère la vie comme simplement une existence en termes biologiques. On parle de la nature animale de l'homme, mais tout cela ne l'élève pas. Et bien entendu, cela amène le monde autour de nous à dire cette fameuse phrase, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Qu'est-ce que la vie, quand on pose la question autour de nous, les gens disent, ben, de toute façon, c'est une succession de problèmes. On en a déjà eu dans le passé, on sait qu'on va en avoir dans le futur. Alors, si on a un moment de répit, ben, profitons-en, faisons la fête et vivons ce moment présent. Mais toute la parole de Dieu, nous le savons, rappelle que la vie humaine est quelque chose de merveilleux. L'être humain n'est pas un animal pensant qui a évolué à partir d'une espèce inférieure. Non, l'être humain est la création spéciale de Dieu. Dieu l'a fasciné. Genèse nous dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est une créature qui est merveilleuse. Il a été créé pour de grandes choses. Et c'est ce que nous rappelle l'Évangile. Toutes les religions autour de nous sont pleines de pessimisme, sont pleines de désespoir. L'Évangile, au contraire, rappelle la dignité de la vie humaine en tant que créature spéciale de Dieu, de créature particulière. Et il nous faut nous rappeler cela dans un monde qui considère simplement les choses sur le plan matérialiste, sur le plan biologique en ce qui concerne la vie, et puis ensuite matérialiste parle en termes de plaisir, de confort, de richesse, de profiter, etc. L'homme a été créé pour des choses bien plus grandes. La vie a une valeur qui est bien plus élevée que cela. Et l'Évangile, la parole de Dieu, nous parle de la beauté de la vie. Et cela nous ramène à considérer la nature de la vie. Et c'est là que l'apôtre en parle dans les versets 13 à 14. Il dit ceci, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. L'apôtre dit ceci, il dit, mais je suis dans ce monde comme étant dans une tente. Mon corps est considéré, si on peut, dans une tente dans laquelle je vis dans ce monde. On a ce langage, par exemple, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, verset 14, où Jean écrit que la parole Jésus a habité parmi nous. Et ce terme, en fait, pourrait se traduire, et là je vais inventer un verbe, mais pourrait se traduire par « tabernaclé parmi nous ». Il fait référence au tabernacle, il fait référence à cette tente qui était dans le désert avec le peuple d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. C'est ce même terme. Et c'est un langage, nous le savons, mais il est bien de se rappeler, qui nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure permanente. L'image de tente montre que ce n'est pas quelque chose de permanent pour nous, mais c'est quelque chose de temporaire. Et cela nous rappelle aussi qu'il faut faire la distinction entre moi, ma personne, ma personnalité, et ce corps. Trop souvent dans le langage, dans la façon de réfléchir de ce monde, l'homme s'identifie à son corps, s'identifie à la vie qu'il vit dans la chair. Et pour lui, cette vie est la seule vie qui existe. Et Pierre nous rappelle simplement par cette expression que ce n'est pas la réalité. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Voilà, j'ai posé ma tente dans ce monde et j'y vis pour un temps. Mais dans ce monde, je suis étranger, je suis pèlerin, je suis voyageur. Je ne suis que de passage. Dieu nous a placés dans ce monde pour un temps et nous sommes en route vers l'éternité. Nous sommes en route, et pour l'enfant de Dieu, vers une éternité de gloire, une éternité où il sera avec lui dans la gloire pour toujours. Mais dans ce monde, je suis dans une tente, je ne suis que de passage. Et cela nous ramène à considérer un point suivant. Quel est le but de la vie? Nous le savons, et encore une fois, c'est bien de nous rappeler. Le but est de glorifier Dieu. L'homme a été créé pour rendre gloire à Dieu. Nous ne sommes pas simplement venus pour traverser une existence du mieux que l'on peut. Notre but est véritablement de rendre gloire à Dieu, de manifester la gloire. Nous allons de toute façon chanter la gloire de Dieu et le servir parfaitement lorsque nous serons avec lui dans sa présence pour l'éternité. Mais c'est quelque chose à laquelle nous sommes appelés, même pendant notre pèlerinage sur terre. Et pourtant, comme nous l'avons lu en Romains 7, la parole nous rappelle que ici-bas, il y a un conflit à cause du péché. Et c'est pour cela que l'apôtre, au verset 12, nous dit « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, parce que vous avez besoin que l'on vous rappelle. » Le monde, lui, n'aime pas qu'on lui rappelle son péché. L'homme, quand on entend les personnes autour de nous, l'homme veut rester optimiste, l'homme veut minimiser ses problèmes et espérer que tout ira bien. Il essaye de repeindre la vie avec des couleurs éclatantes. Et pourtant, nous le savons, les problèmes restent toujours présents. La réalité est toujours là. Le cœur du problème est la relation avec Dieu. Le monde essaye de se convaincre que tout ira bien. Mais même le monde ne croit pas ses propres paroles. Même le monde sait que les choses vont mal. Et l'Évangile rappelle à l'homme que son problème est le péché. La seule solution est le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le but de la vie? L'auteur y fait allusion au verset 14 et 15. Il parle, il sait, il dit ceci, car je sais que je la quitterai subitement. Et puis il parle au verset 15 de son départ. La mort pour l'enfant de Dieu en particulier est comme un exode. Je vais vous rappeler ces choses jusqu'à mon exode, dit l'apôtre Pierre. Et on voit bien l'image avec l'exode dans l'Ancien Testament. Le départ du croyant, la mort du croyant, c'est comme passer de la captivité en Égypte à la liberté, la terre promise. Bien entendu, l'image peut s'appliquer autrement aussi, mais pour l'enfant de Dieu, c'est ainsi qu'il devrait voir la fin, sa fin de vie sur terre. Ce n'est pas quelque chose de terrible. Non, c'est simplement, on replie la tente et on part. On traverse la rivière et on entre dans un royaume qui est éternel, un royaume qui est parfait, un royaume où la demeure est préparée par le Seigneur Jésus-Christ, une demeure dont les fondements sont solidement établis et une demeure qui ne peut être détruite. Pourtant, on sait que dans ce monde, aussi longtemps que nous serons dans ce monde, le péché sera présent, le péché sera autour de nous et qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Il ne peut pas, et il n'y a pas dans la parole de Dieu, d'optimisme superficiel comme le monde cherche à voir. La Bible même parle de guerre, de rumeurs de guerre. Mais elle dit aussi que Jésus-Christ, Jésus le Fils de Dieu, est venu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le tombeau, et il reviendra dans sa gloire pour détruire ses ennemis. Il y a un exode final où il vient libérer les siens et les amener dans un pays où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni péché, ni mort, ni souffrance, mais où tout sera parfait. Et ce terme nous fait regarder à la fois au passé et à l'avenir. Ce terme d'exode nous rappelle ce que Dieu a accompli dans le passé avec le peuple d'Israël, mais il nous fait regarder vers l'avenir, vers cette libération totale, ce jour où nous pourrons vivre et servir Dieu sans connaître de péché, puisque nous serons dans la gloire pour l'éternité. Et cela nous ramène à voir le dernier point. C'est que ce qui compte le plus dans cette vie, bien entendu, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas vivre sur le passé en essayant de revivre le passé. On ne peut pas vivre simplement en comptant sur des espoirs, un espoir de l'avenir. Par contre, on peut réellement vivre en comptant sur Christ. Christ qui est la vie. Christ qui nous donne cette foi en lui, qui nous fait nous appuyer sur lui jour après jour, et nous appuyer sur sa personne, nous appuyer sur son œuvre et sur son sacrifice, sur sa mort, sur sa résurrection. Et c'est en nous appuyant sur Christ en ayant cette foi que Dieu nous donne en Christ, que nous comprenons et que nous avons une vision de la réalité, une vision de ce qu'est l'homme, une vision du but de la vie, de la raison de vivre, et que c'est en Christ que nous pouvons triompher du mal et que nous allons triompher de la mort, parce que Christ a triomphé de la mort. Et c'est de ces choses qu'il faut nous rappeler, afin de qu'elles aient une influence dans notre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre écrit cela. Il dit, voilà, je sais que vous savez ces choses. Je sais que vous êtes affermis dans ces choses. Je sais que vous êtes affermis dans la vérité présente. Je sais que vous connaissez. Mais je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Parce que nous avons tous besoin de nous rappeler ces réalités, afin de ne pas perdre de vue ces réalités, et afin que ces vérités aient une conséquence, une implication dans la vie pratique, et nous aident à conduire, à diriger, nous diriger dans nos choix, dans les pas que nous faisons dans notre vie, à ne pas oublier ces réalités que nous connaissons, mais à nous rappeler de ces choses. Puisse Dieu nous aider à méditer ces paroles et à nous rappeler, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre, puissions-nous nous rappeler de ces choses et de garder ces vérités constamment devant nous, afin que nos vies en soient affectées et que nos vies soient vécues pour la gloire de Dieu. Amen.